Actuellement, il y a une 36e édition du Festival international du film sur l'art qui bat son plein. Je ne sais pas si tu es au courant.
Mm-hmm.
Voilà. Et ce festival, on est à mi-chemin de l'événement qui se termine, ça terminera dimanche prochain. Et le FIFA, on appelle ça le FIFA, le Festival international du film sur l'art, c'est une programmation multidisciplinaire internationale. Et, il y a bien des disciplines, mais on va se concentrer, bien sûr, aujourd'hui sur le volet, hein? Art visuel.
Art visuel. Voilà. Attends. Es-tu sérieuse?
En continuité avec mon émission.
Exactement.
Dont tu fais souvent la présentation et l'éloge. Encore merci, Neil. Et vraiment, les passionnés de films d'art seront par contre un petit peu moins contentés cette année parce qu'il y a après une période de transition difficile, des tensions avec le fondateur, le précédent directeur, M. René Rauzon. Le FIFA nous revient avec en mode économie,
mm-hmm.
avec une programmation réduite de moitié, très peu de reprises. En fait, je pense qu'il y en a à peu près une ou trois. Et évidemment, une division limitée cette année dans trois lieux. Le Musée des Beaux-Arts, le Centre canadien d'architecture et l'Université Concordia, salle J.A. de Sèvres. Et la programmation, par contre, Neil, il ne faut pas se décourager, la programmation, par
ouais,
contre,
justement. C'est comme...
n'y a pas une grosse programmation, mais il y a une belle qualité cette année. Et pour nous mettre en appétit, à mes côtés, j'ai Pierre Archambault qui vraiment, écoute, Neil, est allé voir pour nous 16 films.
Pardon?
Alors, aujourd'hui, je vais avant tout laisser la parole à Pierre Archambault qui a vu énormément de films. Peut-être qu'on peut commencer, on va parler des films vus, les films à venir. On a vu aussi des films qui vont être diffusés dans les prochains jours. Alors, tout un exercice. Bienvenue.
Dans un premier temps, Pierre.
Merci, Pierre. Merci.
Vous avez survécu.
Oui.
Ah, mais je ne bats pas mon record de l'an dernier qui était de 63 films.
Mon Dieu, Seigneur.
c'est mon marathon annuel et wow. Je ne manquerai pas le FIFA pour tout l'heure du monde. Je prendrai jamais de vacances à cette période-là. Alors, en plus des films sur les arts visuels, évidemment, il faut mentionner qu'il y a le théâtre, la musique, la danse, la littérature. Donc, à peu près toutes les formes d'art sont couvertes. Mais nous, évidemment, notre spécialité, ce sont les arts visuels, incluant l'architecture, qui habituellement ont de très, très bons films. Alors, je commence par ce que j'ai vu déjà.
Oui.
Alors, il y a Didi Contractor, qui est un drôle de titre. On penserait un serpent contractor.
Ou une bande dessinée belge.
Une bande dessinée, effectivement, oui. Mais en fait, il s'agit le nom d'une vieille dame, une architecte qui est dans les 80 quelques années et qui habite en Inde dans une charmante maison. Et elle fait l'architecture domiciliaire, donc pas des grands buildings, ce sont toujours des commandes de maisons familiale ou pour les personnes seules. Donc, tout se passe au rythme de la nature. Évidemment, en Inde, tout est ralenti.
Oui, absolument.
J'y suis déjà allé, alors je connais un peu le rythme. Et elle privilégie la terre comme matériau de construction, ce qui est assez courant aussi en Inde. Évidemment, c'est un matériau qui se modifie et qui est très écologique parce que si la maison commence à se déglinguander, on récupère les briques et on recommence avec la même terre. Donc,
c'est un des matériaux vraiment extraordinaires pour cela et qu'on a oublié.
Tout à fait, oui. Donc, on la voit aussi qui donne des cours sur sa véranda. Il y a des gens de partout dans le monde, des jeunes architectes surtout, de divers pays, qui viennent écouter ses sages conseils.
Sur ce film, Pierre, les images sont comment? Est-ce que vraiment la beauté de l'image, est-ce que c'est vraiment la présentation de ce qu'elle nous amène dans son monde en termes d'architecte et ses méthodes qui sont particulières et où les images en plus sont un bonus?
Les images, du reste, c'est
moyen.
Correct. Mais c'est pas à se jeter par terre.
Okay.
Par contre, je parlerai d'un autre tantôt où là, les images sont absolument époustouflantes. Non, c'est tout est sobre. Il n'y a pas de
sans trop de flafla.
D'éblouissement. Non, c'est dans la grande simplicité. Il y a aussi, on entend les commentaires de d'autres architectes, surtout architectes indiens, qui commente les idées qu'elle a développées. Entre autres, c'est elle qui a, disons, instauré la notion du plafond dans les maisons, ce qui n'existait pas. C'était le toit, et ça s'arrête là. Okay. Donc, quand il pleuvait, les gens... souvent...
Donc, c'est une dame, de ce que je comprends.
Oui, une vieille dame.
C'est quand même particulier que, à son âge, nécessairement, surtout quand on parle de références et connaissances techniques, c'était pas un monde d'hommes, de femmes du tout à l'époque, qu'elle ait pu devenir une référence en la matière en Inde. C'est spécial.
Oui, tout à fait. Mais
Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié du film, Pierre?
Ben, c'est surtout elle, le personnage. On voit que c'est une grande sage. C'est quelqu'un de très posé qui explique bien ses idées. Alors, c'est surtout ça qui m'a... Cependant, le film est de 81 minutes. J'aurais coupé un peu plus de 15 minutes parce qu'il y a un peu de redondance dans le discours.
Okay. Mais ça tombe bien, on peut voir le film. On peut voir le film ce vendredi à...
12h30.
12h30, dans le programme entre 12h30 et 14h30. En fait, vers 13h30, à peu près, on peut voir le film. Ouais. Mais c'est toujours présenté en programme double, le film.
Alors, ou triple,
parfois.
Quand je dis que j'en ai vu 16, ce ne sont pas des films de 2 heures. En majorité, c'est 52 minutes.
Okay,
parfois, 28 minutes aussi. Donc, c'est pour ça que ça permet d'en voir autant.
Est-ce que tu as vu d'autres films qu'on peut voir?
Aussi,
on va commencer par les films qui s'en viennent. Après ça, on verra pour des films qu'on a déjà vus, là, mais qui ne reviendront pas à l'affiche.
Ah bon?
Oui.
Un film et une artiste que j'aime beaucoup, c'est Lisette Lemieux.
Ah oui, tout à fait.
Une Québécoise qui vit à Montréal, qui est prof à l'UQAM. Mm. Et ça tourne autour de l'exposition qu'elle a faite ou qui est encore là, à Saint-Hyacinthe, au centre d'exposition de Saint-Hyacinthe.
Et commissarié par Laurier Lacroix, que j'ai déjà interviewé. Oui. Mm-hmm. Oui.
Donc, on fait le tour de l'exposition. Il y a une quinzaine d'œuvres. Et c'est l'artiste elle-même, Lisette Lemieux, qui parle du contenu de ses sculptures, parce qu'elle est sculpteur, et des différents matériaux. C'est ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle développe une idée, et là, elle va chercher des matériaux qui correspondent à l'idée. Donc, ça va du verre au métal, au bois, au plâtre, à la porcelaine. C'est très, très varié comme matériaux. Et entre autres, il y a une robe entièrement tricotée en fil de plomb. Alors, évidemment, c'est pas portable, c'est une sculpture.
Ouais, ça doit être extrêmement pesant.
Sûrement, oui. Elle est suspendue du plafond. Il y a aussi un corps humain couché qui est fait entièrement de verre concassé.
Un gisant comme au Moyen-Âge.
Exactement,
oui. Oui.
Et il y a des feuilles de nénuphar. On sait que ce sont des grandes feuilles qui sont entièrement en papier fait main blanc. Et une d'entre elles, elle a déposé une larme de verre comme une goutte d'eau qui serait tombée sur le papier. C'est très, comme je dis, très, très beau esthétiquement.
Et c'est bien accompagné d'un autre film aussi, parce que dans le fond, c'est un programme double sur deux artistes qui se sont consacrés corps et âme à leurs œuvres, à leur démarche artistique. Donc, pas de femmes, pas d'enfants, qu'une vie artistique.
Wow.
Hein, Neil? Alors, c'est quelque chose... C'est un programme double, vraiment, que j'affectionne particulièrement. Ouais. Je pense que le film de Jean-Paul Jérôme, c'est un
des piliers. Je l'ai avant.
Oui,
c'est
allons-y.
Un film de 18 minutes.
De 18 minutes.
Donc, qui est en programme double avec celui de Jean-Paul
Jérôme.
Jérôme
fait partie un peu des artistes piliers comme Riopel, Ferron, voilà.
Dans ce domaine-là.
Oui. Alors, lui, moi, j'ai beaucoup apprécié ce film-là, qui est chronologique, disons-le, biographique, et qui est très intéressant, qui nous fait découvrir vraiment, vraiment tout le parcours de cet artiste, vraiment étonnant. Hein?
Oui, là, c'est un film de 72 minutes, et ça tient le coup en 72 minutes. On peut difficilement recouper un certain nombre de minutes. Donc, on voit toute l'évolution depuis son enfance. On dit que ses parents disent que dès l'âge de 7 ans, il dessinait régulièrement. C'était son sport préféré. Et il a peint au début, évidemment, comme à peu près tous les artistes, des tableaux figuratifs, des natures mortes, ainsi de suite. Et ensuite, il va étudier à l'École des beaux-arts à l'époque, qui n'existe plus maintenant, pendant 5 ans. Donc, il a appris les rudiments du métier d'artiste. Et ensuite, il s'est inscrit à l'atelier de Cosgrove, qui était un peintre d'une très bonne renommée ici au Québec, qui vivait à Montréal. Et il a fait par la suite la rencontre de 3 autres comparses, soit Louis Bézil, Fernand Toupin et Joran. Joran qui était à la fois critique d'art, je crois, au Devoir à l'époque, dans les années 50, fin des années 50. Donc, le quatuor a formé le groupe des plasticiens. Et ils ont écrit un manifeste qui est un peu en réaction contre le manifeste de Bordua, qui, eux, prônaient la gestualité et la spontanéité, alors qu'eux voulaient avoir de la rigueur. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont utilisé des formes plutôt géométriques, avec des contours très, très délimités. Et il est allé, comme la plupart d'entre eux, à Paris en 1956-57, où là, il a fait la rencontre des grands artistes de l'époque, les grandes vedettes des arts visuels, soit Hans Hartung, Martin Barré et Mortensen, qui exposaient partout en Europe. Donc ça lui a donné comme un coup de pouce pour avoir une certaine reconnaissance à Paris, où il a exposé et où il a pu vendre des tableaux, ce qui est assez difficile dans cette mégalopole française.
Ce film, est-ce que vous considérez que c'est un film accessible pour tout un chacun?
Très accessible.
D'autant plus que c'est en même temps l'histoire du Québec qui est racontée au travers son parcours. Donc,
tout le monde peut se retrouver.
On a des références de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, soit les années 50 et 60.
Et ce sont des œuvres vraiment hautes en couleur. Alors, c'est vraiment qui est très attractif.
Très, très, très coloré. Oui. Donc, il a enseigné aussi et il a, comme disait Chantal, dédié toute sa vie à son art.
C'est quelque chose.
Entièrement, oui.
Et mort, hein, il est décédé dans son atelier, en train de créer
une œuvre. En train de peindre. Pas d'écrire, mais de peindre.
C'est ce qu'on appelle mourir pour son art.
Oui, oui.
Et ça, c'est vraiment...
Et il a conçu aussi des sculptures très réussies, ce qui n'est pas toujours le cas pour les peintres, parce que c'est deux
Passer du 2D au 3D.
Ouais, c'est ça.
Avec des sculptures vraiment...
Et c'est également toujours donner des défis de jamais répéter ce que aussi d'autres artistes ont fait. Ils sont tombés dans des recettes, mais pas lui. C'était toujours chercher quelque chose de nouveau dans sa démarche. Alors voilà pour Jean-Paul.
Et ce beau programme double, ben on peut le voir ce vendredi, c'est-à-dire vendredi 16 mars, je pense que c'est à
17h30. Et en reprise. 20h45.
Et mon Dieu, j'ai pas eu cette information.
Mais là, ce sera uniquement Jean-Paul Jérôme, sans Lisette.
Chantal, tu peux pas avoir toutes les informations.
Mais c'est quand même un programme triple, alors il y a de quoi se contenter vendredi, donc à 17h45, parce qu'on a aussi en premier un petit film sur Serge Lemoine, sur sa maison que les voisinages n'acceptaient pas, qui a fini par brûler. Alors ça, c'est toute
fou,
une histoire.
De voir comment est-ce qu'une petite histoire comme ça peut se rendre à l'écran et devenir un sujet d'intérêt.
Cet événement-là?
Où est-ce qu'on peut s'asseoir et dire, OK, on va devenir témoin de cette histoire qui est mise en image. Donc, vous l'avez vu?
Je ne l'ai pas vu. J'ai bien hâte d'aller le voir, mais j'ai reçu une des personnes qui a participé à la réalisation de ce film-là, Bernard Lévy.
Okay.
Elle m'a parlé. Alors, écoutez, c'est quelque chose. Alors, ça aussi, ça mériterait une enquête qui n'a jamais été résolue. Mais un beau programme double, là. À quel endroit ça aura lieu? Au musée
CCA.
Au CCA. Donc, ce vendredi, à ne pas manquer.
On rappelle pour les néophytes, qu'est-ce que le CCA, s'il vous plaît?
Le Centre canadien d'architecture. Merci, Neil, de nous le faire préciser. Et il y a un autre bon film, je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Pierre, le film Linda Moser, photographe, vaudissant en noir et blanc, photographe de New York dans les années 50, qui est venu faire un voyage dans tout le Québec pour le magazine Vogue. Eh bien, moi, j'ai trouvé que c'est un film absolument émouvant sur une femme...
Pourquoi?
émouvant parce qu'elle elle jetait un regard extérieur sur nous, notre Québec. Alors, on a des images absolument resplendissantes.
Qui a été amenée dans une autre perspective, dans le fond.
C'est ça. Et je ne sais pas si vous connaissez Notman, le célèbre photographe Notman, qui faisait des photos d'une...
Photo documentaire
d'une grande qualité. Moi, je préfère des rapprochements. Elle saisissait les expressions. Elle allait chercher le moment qui nous faisait vivre l'époque en même temps que la photographe. Alors, j'ai été touchée. Moi, c'est vraiment une cinéaste qui raconte sa rencontre avec cette photographe-là qui souhaite qu'on fasse un film sur ses photos d'époque. Vraiment intéressant. Et ça va être diffusé dimanche. Ce sont des ajouts, je crois, dimanche après-midi. À quelle heure? À 17h30.
Oui. Mais toute la programmation, de toute façon, doit être en ligne au niveau de FIFA, je présume.
Là, c'est qu'on vous fait des recommandations sur des films à venir. On a reçu, nous, les films pour pouvoir vous en parler, pour vous faire des recommandations de bons films. Est-ce que tu as d'autres films à recommander qui s'en viennent, Pierre?
Non.
Non.
Comme des films que j'ai vus.
Peut-être qu'on pourrait terminer par les films qu'on a vus qui pourraient fort probablement prendre l'affiche éventuellement dans le futur.
Ils peuvent gagner des prix et être présentés plus tard au Musée des Beaux-Arts puisqu'ils reprennent les films qui ont été récipiendaires. Ouais. Donc, il y a Jahar Lament of the Image. C'est un artiste chilien qui est un film de 95 minutes uniquement en anglais, sans sous-titre.
Mais il va être diffusé dimanche, lui. Je lis dans mes reprises. Bon, ben, voilà un autre film qui va être diffusé.
Donc, lui s'intéresse beaucoup à la situation politique. Entre autres, il est allé au Brésil filmer, puisqu'il fait la vidéo et la photo, des images des gens qui vivent dans les mines d'or. Alors, c'est des milliers d'hommes à peine vêtus là, qui charrient des poches de terre sur la tête.
De la poudre.
Ah ouais, et on a vraiment l'impression quand c'est pris un plan éloigné que ce sont des fourmis là qui un nid de fourmis qui est en train de travailler. Et par la suite, il va aller au Rwanda à cause des massacres là-bas. Et là aussi, il a fait toute une documentation. Il était outré de voir la condition des Noirs là-bas au Rwanda. Il y a aussi, il crée des installations, dont une qu'il a fait à sa participation à la Biennale de Venise. C'est un immense bassin d'eau, genre de piscine, dans lequel les gens pouvaient se mirer. Ça devenait un genre de miroir. Lentement, il y avait le continent africain qui émergeait de l'eau. C'était assez impressionnant comme installation. Et il utilise aussi, il est allé plusieurs fois à New York où il utilise les grands panneaux lumineux sur Broadway, où là, il critique la politique américaine. Entre autres, il a écrit la phrase « This is not America », en voulant dire que les États-Unis s'approprient du continent entier de l'Amérique sans tenir compte de tous les pays latinos et du Canada. Donc, c'est une critique assez acerbe de tout ce qui va mal dans le monde, qu'on peut dire. Et son enfance, il est né en Martinique, donc il dit que c'est ça qui l'a sensibilisé à la condition des Noirs un peu partout dans différents pays.
Est-ce que c'est un film que tu recommandes, Pierre?
Oui.
Absolument.
Très intéressant.
Peut-être qu'on pourrait prendre un petit... parce que là, il va nous manquer de temps pour faire un retour sur les films qu'on a vus qui ne reviendront pas nécessairement à l'affiche, mais on va le souhaiter. Moi, j'ai vu un film en particulier que j'ai pas apprécié, puis j'ai un petit quelque chose du cinéaste que j'ai interviewé à la sortie du film. C'est sur Buñuel, La transgression des rêves. C'est un film de Pierre-Henri Gibert. Moi, j'ai trouvé ce film-là absolument passionnant. Sur le cinéaste Luis Buñuel de l'École surréaliste qui s'intéresse... C'est un film qui s'intéresse aux années préparatoires du cinéaste avant qu'il ne devienne réputé à 50 ans. Donc, avant qu'il ait 50 ans, là, il a fait beaucoup de cinéma qui n'a jamais été accepté, jamais été programmé dans les salles de cinéma.
Surtout s'il commence à être reconnu seulement à 50 ans.
Écoutez, c'est quelque chose. Alors, ce film-là est vraiment original et je vais vous faire entendre le point de vue, un petit peu le cinéaste qui résume le film en une minute.
C'est Jean-Claude Carrière qui dit l'originalité, c'est le retour aux origines. Ce qui est une idée assez forte. Quand on parle d'originalité, souvent, on essaie de trouver une source d'inspiration un peu extraordinaire, extérieure à soi. On dit, mais comment être fracassant? Et en fait, finalement, la réponse, c'est, il faut être soi, il faut puiser à l'intérieur dans ses angoisses, dans ses névroses. Et c'est exactement ce que fait Buñuel. Et donc, finalement, on raconte la vie de Buñuel à une période où il ne fait pas de cinéma. Pas professionnellement, en tout cas, excepté ses trois courts-métrages qu'il fait de manière amateur. Un chien andalou, L'âge d'or et Terre sans pain. Et le film est en illustration, en miroir avec ce qu'il vit. On a toute une série d'extraits de ces films qu'il fera plus tard. Et donc le spectateur est amené de lui-même à faire le lien et se dire ah oui, tiens, si, il y a ça dans le film, effectivement, c'était lié à cette période-là. Donc ça crée, j'espère, une forme d'excitation et ça donne une dynamique au film et à ce début de la vie de Buñuel qui est assez extraordinaire. Il traverse la guerre d'Espagne, il a abandonné un projet de partouze avec Chaplin, il rencontre les Garcia Lorca, il rencontre Dali, il rencontre le groupe surréaliste à Paris. Enfin, c'est une aventure, sa vie est une aventure. Enfin.
Sa vie est absolument captivante et passionnante.
Alors, Pierre, je pense qu'on n'a pas le temps beaucoup d'en parler, mais je pense que tu as beaucoup aimé ce film-là.
Ah, c'est un film que je recommande, oui.
Absolument, en espérant qu'il revienne à l'affiche, un film de Ciné Plus, donc, et l'entrevue au complet, vous pourrez l'écouter sur mon blog, Magazine In Situ WordPress. Et peut-être en terminant, ne manquez pas, le film d'ouverture, imaginez-vous donc, sera en reprise mercredi 3h au Centre canadien d'architecture. Donc, le film en reprise, le film titré Mégalo-démocrate sur The Public Art of Raphaël Lozano-MR. Donc, on va avoir la chance de le revoir mercredi 3h.
À quel endroit?
Au Centre canadien d'architecture. Et ne manquez pas non plus le film de clôture sur Giacometti. C'est un film de fiction, mais je pense que c'est une belle concordance avec l'exposition en cours au Musée national des beaux-arts de Québec sur Giacometti. Donc, ça, c'est samedi soir, 20h. Il y a, bien sûr, un focus chez les Néo. C'est une programmation de films de l'artiste Mohawk multidisciplinaire qui fait dans l'art visuel, le cinéma, la photo. Une quinzaine de courts et longs métrages le 16 mars à 15h à l'Université de Concordia. Un festival, donc, enlevant. Rappelons-le, le Festival international du film sur l'art dans trois lieux de diffusion jusqu'à dimanche.